Xavier Dupont de Ligonnès court toujours, s'il est encore en vie. Un innocent a passé quelques heures aux mains de la police écossaise en raison d'une dénonciation anonyme. Nous allons à Glasgow dès le début du journal.
Les militants du Parti Les Républicains ont jusqu'à ce soir 20h pour voter sur Internet et élire leur nouveau président. Ce nouveau président devra relever un mouvement en plein doute.
On vote aussi en Pologne aujourd'hui, élection législative avec le parti conservateur, le PiS, sortant mais favori. On vous dira pourquoi avec notre correspondante à Varsovie.
Et puis des chefs-d'œuvre à voir à Paris. Le musée d'art moderne rouvre après d'importants travaux de rénovation.
On a par exemple la tour Eiffel de Delaunay, qui est un de ces très grands tableaux, qui est accroché à côté d'une fenêtre à travers laquelle on voit la tour Eiffel. Ça, je trouve ça merveilleux.
Bon réveil à toutes et à tous et passez un très bon dimanche à l'écoute d'Europe 1.
S'il est vivant et donc toujours en cavale, Xavier Dupont de Ligonnès a dû observer les 48 dernières heures avec une certaine ironie. L'arrestation d'un homme qui ne lui ressemble en rien, qui a 11 ans de plus que lui et qui n'a été libéré qu'après un test ADN heureusement assez rapide. L'une des deux envoyées spéciales d'Europe 1 en Écosse, Johanna Chabas, nous dit comment les enquêteurs écossais ont travaillé.
Il aura fallu près de 20 heures à la police écossaise pour annoncer publiquement que la personne arrêtée vendredi n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. L'homme, Guy J, a été relâché en toute discrétion. Il souhaite maintenant que l'on respecte sa vie privée. Alors ce temps peut paraître long, mais c'est la procédure. Il n'était pas en garde à vue. Les policiers vérifiaient juste son identité dans le cadre du mandat d'arrêt européen contre Xavier Dupont de Ligonnès. Il y a d'abord eu les empreintes qui font croire un certain temps que c'est bien lui, mais elles ne sont que partiellement concordante et devant le peu de ressemblance physique entre les deux hommes, les autorités appellent à la prudence. C'est l'ADN qui va finir par trancher. Les résultats sont négatifs. Guy J n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Aucune autre procédure n'est donc engagée contre lui, mais dans cette affaire, il reste des interrogations, notamment sur l'information reçue par les policiers écossais, celle qui a tout déclenché. Qui leur a indiqué que Xavier Dupont de Ligonnès devait prendre un avion à Roissy ? Pour l'instant, les enquêteurs n'ont pas apporté de réponse.
Johanna Chabas à Glasgow, en Écosse, pour Europe 1.
Ils sont trois à prétendre présider ce soir le Parti Les Républicains. Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé, ils vont devoir patienter jusqu'à 20h.
Le vote des militants se fait par Internet depuis hier soir. L'enjeu, ensuite, sera de redresser la droite après les 8% aux européennes. Avec une interrogation pour aujourd'hui, l'ampleur de la participation. Pour Europe 1, Aurélie Herbemont.
Combien seront-ils à choisir le nouveau patron de LR ? La participation donnera une idée de l'état du parti. Il y a 2 ans, pour l'élection de Laurent Wauquiez, près de 100 000 militants s'étaient mobilisés. Cette fois, les cadres tablent sur une participation entre 30 et 50 000, beaucoup d'adhérents ayant déserté. Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé ont donc fait campagne pour remobiliser les troupes restantes. Christian Jacob avec le soutien d'une écrasante majorité d'élus, les deux quadras avec l'ambition de renverser la table. Au-delà de la participation, autre inconnu, y aura-t-il un seul tour ou en faudra-t-il 2 ? Beaucoup espèrent que l'affaire sera réglée ce week-end, histoire de donner élan et légitimité aux vainqueurs. Mais si jamais il faut 2 tours, une dirigeante dédramatise. En matière de calamité, on aura vu pire. Il faut dire que depuis 7 ans, la droite a connu la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, la guerre Copé-Fillon, la déroute de François Fillon en 2017 et le fiasco des européennes.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Marche blanche ce matin à 11h entre le Pré Saint-Gervais et les Lilas en Seine-Saint-Denis. Les Lilas où un lycéen de 15 ans a été tué il y a un peu plus d'une semaine, poignardé. 3 ados de 14 et 15 ans sont en détention provisoire dans cette affaire.
La suite du journal de François Geffrier dans un court instant. Comment un parti politique utilise la télévision publique pour convaincre les électeurs de voter pour lui ? Ça se passe en Pologne, en l'occurrence, et c'est là que nous allons dans un instant.
7h04 sur Europe 1.
Europe 1, Bernard Poiret.
Europe 1. Suite de l'actualité avec François Geffrier et Bernard Poiret.
François, ce dimanche, les Polonais doivent voter pour élire leur Parlement. Le parti conservateur actuellement au pouvoir, le PiS, est favori.
Son credo, la défense de la famille traditionnelle, mais aussi une politique sociale généreuse. Fanny Boucaud est la correspondante d'Europe 1 en Pologne. Elle nous explique aussi que le pouvoir utilise la TVP, c'est la télévision publique polonaise, pour faire campagne.
En ouverture d'un journal de la télévision publique, un sujet contre la coalition civique, l'opposant du PiS. Un formidable outil de propagande pour le parti au pouvoir, selon Marcin Skubiszewski de l'Observatoire électoral, association qui surveille la TVP.
C'est d'une qualité excellente et je me suis pris à le croire des fois. Mais si moi, étant bien informé, j'arrive à me prendre dans le jeu de propagande momentanément, il ne faut pas s'étonner que de nombreuses personnes s'y laissent prendre totalement. Donc c'est une énorme fraude électorale.
Et si ça ne suffit pas pour convaincre, le PiS sort le portefeuille. Nouvelle promesse sociale faramineuse est toujours le 500+, 500 zlotys, soit 115 euros chaque mois. Une allocation familiale qu'il l'a fait gagner en 2015, versée dès le premier enfant depuis septembre. Eva a un bébé d'un an.
Je pense que je vais voter pour le PiS. Cette allocation est d'une grande aide pour les familles et c'est un très bon argument pour voter pour eux. Si la coalition gagne, elle arrêtera cette allocation.
Argument répété par la télévision publique, alors que la coalition dit qu'elle n'y touchera pas. Oui, mais voilà, pour beaucoup de Polonais, seul le PiS a toujours tenu ses promesses sociales. Varsovie, Fanny Bouco, Europe 1.
Un vote également en Tunisie ce dimanche, élection présidentielle, c'est le second tour entre le magnat des médias Nabil Karoui et le professeur de droit constitutionnel Kaïs Saïed.
Et c'est un événement culturel majeur pour Paris et pour les amateurs d'art moderne. Le musée d'art moderne, le bien nommé, rouvre après plusieurs mois de chantier.
Des travaux de rénovation qui ont permis de retrouver les espaces assez généreux du palais qui héberge le musée. Pour Europe 1, Diane Chenouda nous fait visiter.
Ce beau bâtiment des années 30 est plus spacieux, plus lumineux, plus moderne qu'avant. Fabrice Ergotte est le directeur de ce musée d'art moderne de Paris.
Alors, ce qui change pour le grand public et pour tous les publics, c'est le hall du musée. Le hall est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus moderne. Et en même temps, il est aussi plus ouvert sur la ville, sur les arbres dehors. C'est un lieu beaucoup plus agréable et beaucoup moins enfermé qu'il l'a été auparavant.
Et puis, les collections permanentes sont plus facilement accessibles dès l'entrée, avec toujours Raoul Dufy et les danses de Matisse. Et de nouveaux rapprochements entre Picasso et Modigliani, par exemple. En tout, 500 icônes de l'art moderne.
C'est un musée qui a des chefs-d'œuvre. Et ces chefs-d'œuvre sont magnifiques. Une chose que j'aime particulièrement, c'est qu'on a par exemple une tour Eiffel de Delaunay. La tour Eiffel de Delaunay, qui est un de ces très grands tableaux, qui est accrochée à côté d'une fenêtre à travers laquelle on voit la tour Eiffel. Ça, je trouve ça merveilleux.
Des collections permanentes qui restent gratuites, avec deux nouvelles applis, l'une pour la famille, l'autre pour les ados, les 11-14 ans.
Diane Chenouda pour Europe 1. Et puis, je suis sûr que vous auriez pu participer, Bernard, le championnat du monde de dégustation de vin à l'aveugle.
Maintenant, il faut cracher.
Et c'est ce que faisaient les candidats, apparemment. Soit ils crachaient, soit ils buvaient un verre d'eau ou ils mangeaient un petit bout de pain. Ça se passait hier au château de Chambord. Il s'agissait d'identifier 12 vins, 6 blancs et 6 rouges, des vins sélectionnés dans le monde entier. Il y avait du grec, il y avait du français, évidemment. Il a fallu inhaler, contempler les robes et enfin goûter, bien sûr. Alors, vous savez quelle équipe a gagné ?
Pas les Français, j'imagine.
Eh bien, si, les Français. L'équipe de France pour la deuxième fois.
Eh bien, bravo.
En cette édition, bravo.
À 7h09, il est temps de passer au sport avec François Geffrier.
Avec modération, bien évidemment.
Sur
le sport,
voilà.
Pas le sport, évidemment. Les amateurs de basket vont se régaler cet après-midi avec le match au sommet entre deux clubs invaincus depuis le début du championnat de France Pro A.
Dijon reçoit l'Asvel, les Villeurbanais qui ont en plus marqué les esprits après leur victoire en Euroleague contre l'Olympiakos et le Panathinaikos. Mais il ne faudrait pas s'endormir sur ses lauriers, prévient le meneur Antoine Diot.
On n'a rien gagné, il va falloir rester humble et les pieds sur terre. Je pense que Dijon, ils nous attendent le couteau entre les dents. Donc voilà, nous de continuer à bosser. Maintenant, on a eu deux matchs à la maison. On va voyager en Euroleague. Ça va être encore un autre niveau. Voilà, il faut être prêt dans la tête et pas se tromper d'objectif. Jouer notre jeu avec nos armes comme on sait le faire et en espérant que ça tourne de notre côté.
Antoine Diot au micro Europe 1 de Maxime Choche, Dijon, Villeurbanne, c'est à 16h.
Côté football, c'est demain que ça se passe.
Et si l'équipe de France se qualifiait pour l'Euro 2020 et ce dès demain soir, c'est possible, mais pour ça, il faudra gagner au Stade de France contre la Turquie. 20 000 supporters turcs attendus dans les tribunes et un calendrier serré puisqu'on sera tout juste 3 jours après le match Islande-France, remporté par la France, 1-0. Didier Deschamps a tout cela bien en tête.
Il faudra voir comment on récupère ceux qui ont débuté le match aussi, parce que ça a laissé des traces. Et en attendant ce match de lundi, qui, grâce à cette victoire, peut être décisif. En gagnant, il nous ouvrirait la porte des qualifications dès lundi. Donc on sait à quoi s'attendre. On va bien récupérer. Et cette équipe turque, elle aussi, aura son mot à dire, puisqu'elle prend autant de points que nous. Donc forcément, confrontation directe. Là, on est sûr que en prenant 3 points et en gagnant, eux, ils n'en prendront pas.
On essaiera donc de les prendre ces 3 points. Didier Deschamps, micro de Jean-François Pérez.
Et Europe 1, bien sûr, vous fera vivre ce match en direct au cours d'une soirée spéciale demain de 20h à 23h.
Notez aussi que Luis Fernandez, invité exceptionnel d'Europe 1 ce soir de 20h à 21h. Luis Fernandez face aux auditeurs avec Lionel Rosso. La Formule 1, le Grand Prix de Suzuka doit démarrer d'une minute à l'autre avec un duo Ferrari aux deux premières places. Sébastien Vettel en pole position devant Charles Leclerc.
Et la Coupe du Monde de rugby, c'est au Japon. Malgré le typhon Agibis, hein, c'est comme ça qu'on dit. Le match Japon-Écosse est bien maintenu. Ce sera à 12h45, heure de Paris. D'ici là, États-Unis-Tonga à 7h45 et Galles-Uruguay à 10h15.
Et puis les résultats du championnat français, 7e journée du top 14. Bayonne l'a emporté 28-24 contre Montpellier. Lyon, vainqueur de Pau, 27-8. Match nul 27 partout entre le Racing 92 et Agen. La Rochelle a battu Brive 41-17. Et Toulouse s'est imposé à domicile contre Castres sur un score de Minitel 36-15,
comme c'est bien dit. Merci beaucoup François Geffrier. C'était le 7h avec François. Il revient à 8h. À tout à l'heure, dans 3 quarts d'heure.